Amis auditeurs et auditrices, aujourd'hui on reçoit dans notre studio du Boulevard Madame Anne Godin et Monsieur Tim Abadi, qui sont deux membres du bureau d'une association qui s'appelle Association Environnement Juste. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
On va parler évidemment de votre association en quelques mots, et puis on abordera le sujet de votre venue, à savoir deux projets qui fâchent pas mal, sur lesquels il faut qu'on apprenne beaucoup de choses. En quelques mots, Tim, peut-être, qu'est-ce que c'est votre association et quels sont ses objectifs ?
L'association est créée en 2013. Et nous sommes déclarés à la préfecture du Lot, bien sûr, avec des buts très simples. Je pourrais vous les lire très rapidement. C'est la promotion et soutien des principes du développement durable qui est entériné dans le droit français. La promotion et soutien des principes de la Convention européenne du paysage entériné dans le droit français. La protection de l'environnement, du patrimoine et des paysages contre toutes atteintes et nuisances, la promotion de la maîtrise d'énergie et la diminution de la consommation énergétique, et finalement la protection des populations contre les nuisances et dangers visuels, sonores, invisibles et inodores. Voilà les principes sur lesquels nous travaillons.
Donc vous êtes venu aujourd'hui afin d'éclairer un peu nos auditeurs sur deux projets vraiment gigantesques qui vont concerner, on va parler surtout de la commune de Montcuq, mais pour toute la France, toute l'Occitanie, voilà. Donc il y a un projet, si j'ai bien compris, d'éolien industriel et de mise en œuvre aussi de multitudes de panneaux photovoltaïques, c'est ça ?
C'est ça.
C'est plutôt un projet d'État d'éolien industriel, puisque le gouvernement avait annoncé qu'il voulait doubler le nombre d'éoliennes industrielles sur le territoire français. Et ils ont demandé au préfet de région de faire des études dans chaque région où est-ce qu'on peut mettre des éoliennes industrielles. Donc il y a des contraintes comme par exemple, on ne peut pas être plus près que 500 mètres d'une maison d'habitation. Il y a des autres contraintes sur les sites Céveso, etc. Donc, ils ont divisé la France dans ces régions. Les régions ont lancé des études. Et puis, ils ont commencé ce qu'ils appellent une concertation publique, c'est-à-dire pour recueillir les avis du public et puis des acteurs du coin. Sauf que nous, en tant qu'association connue quand même depuis un petit moment, nous, on a appris ça quelques jours avant la fin théorique de cette concertation publique qui était le 3 décembre. Donc, pour l'instant, au niveau des éoliens, c'est une étude qui va montrer où on pourrait mettre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les mettre partout, mais où est-ce qu'on pourrait les mettre. Et pour nous, c'est une question d'avertir les populations que cette étude est en cours, qu'ils ont maintenant, puisque nous avons fait des réclamations auprès de la DREAL, qui nous ont donné jusqu'au 15 décembre, plutôt au lieu du 3, pour recueillir les avis des gens et les suggestions des gens. Donc l'objet numéro un, c'est d'informer les populations que ça existe. Et on pourra y revenir, mais les informations que nous avons sont toutes sur le site internet de notre association, que les gens pourront aller regarder quand ils veulent. Alors, en ce qui concerne il y a des projets plus concrets, surtout, il y en a une à Montcuq qui traîne depuis 2018. C'est des projets de photovoltaïque au sol sur terres agricoles. Et c'est là où ça cogne pour notre association, puisque nous pensons que les terres agricoles, c'est pour l'agriculture, c'est pour la bouffe. Je pense que l'histoire du Covid nous a appris qu'on était très content d'avoir des producteurs locaux pour aller acheter nos besoins et les couvrir pour le Dieu énergie en photovoltaïque et mettre l'excuse des moutons en dessous. Donc on va être couvert de moutons partout en France. Il n'y aura plus rien à manger, sauf le mouton.
Bon, sauf s'il arrive à vivre longtemps là-dessous.
Déjà.
Qui reste à voir.
Alors pour Montcuq, si j'ai bien compris, on parle de 57 hectares.
Montcuq, c'est le total couvert par le projet, c'est 60, je vous cherche le chiffre, c'est 66 hectares de terres agricoles, dont à peu près une trentaine, juste en dessous de 30, est actuellement couvert de panneaux photovoltaïques. Pour le reste, c'est tous les chemins d'accès qu'il faut avoir tout autour. Il y a des chemins entre chaque rangée de panneaux photovoltaïques. C'est des panneaux qui vont jusqu'à 3,10 m de haut dans les paysages. Donc, ce sera à peu près le deuxième ou troisième plus grand projet photovoltaïque au sol en France aujourd'hui. La différence étant que les deux plus grandes sont sur des anciennes friches militaires.
D'accord. Et ça représente à peu près, bien sûr, ça représenterait combien de panneaux en tout ? Parce que à Montcuq, il y a trois sites, c'est ça ?
Oui, il y a trois sites qui sont presque au même endroit, mais ça appartient à des propriétaires différents. Et on est à peu près 110 000 panneaux photovoltaïques sur ce projet.
C'est énorme.
C'est énorme, absolument, c'est énorme, oui. Oui. Et puis c'est surtout c'est l'endroit, c'est des terres agricoles. Je sais que le promoteur avait dit que c'était des terres vouées à l'abandon.
Excusez-moi, mais là c'est un peu scandaleux ce qu'on entend. Une terre agricole est destinée à produire de l'agriculture. Si le terrain est un peu difficile, il suffit d'entretenir le terrain comme il le faut.
Et il n'y avait pas une idée aussi d'installer en priorité le moindre panneau photovoltaïque plutôt sur des toits de garage ou sur des parkings abandonnés ou ce genre d'endroit ? Le fait d'utiliser des terres agricoles, c'est même interdit, non ? Normalement.
Ça l'était.
Ça l'était.
Et puis prendre ne serait-ce que des zones commerciales industrielles où il y a des toits à foison partout, et ça ne dérangerait absolument personne, ça semblerait tellement plus logique en n'ennuyant personne que d'aller dans des terres agricoles. Nous sommes dans une période où il y a un changement climatique qui est énorme. Les productions, bon, quelquefois on peut produire aussi bien que les autres années, mais il y a énormément de productions qui sont en diminution au point de vue volume. Il faut quand même être très prudent parce que si ça arrive chez nous, si ça arrive dans d'autres pays, bon, nous ne produisons pas assez, nous allons acheter à l'extérieur, mais il faut amener la nourriture, amener les produits. Donc, est-ce que c'est très raisonnable ? Faut-il choisir, pour plus tard, de manger ou de jouer avec des instruments électroniques ? Il faut savoir aussi ce qu'on veut. Moi, il me semble que l'être humain a besoin d'abord de manger et puis ensuite, il pourra utiliser son téléphone portable s'il veut. Mais ça serait peut-être bien de faire des priorités.
Et en plus, installer tout ça dans le Lot pour éventuellement gagner de l'énergie, c'est pas forcément une bonne idée et ça serait même pas efficace.
Ben, l'efficacité du photovoltaïque, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est assez évident, le photovoltaïque fonctionne quand il y a du soleil, il fonctionne au mieux quand il y a plein soleil. Et quand les panneaux sont dirigés absolument correctement vers le soleil. Donc en fait, ce qu'on appelle le facteur de charge du photovoltaïque en France n'est que 14%. Ça veut dire que pour un panneau de, disons, 1 kW de puissance installée, il va en fait, en moyenne, ne produire que 140 watts. Donc en plus, dès que le photovoltaïque ne produit pas, eh bien, il faut quelque chose pour prendre le relais. Nous avons fait le calcul parce que des gens nous posaient la question. Enfin, ils disaient, oui, mais on pourrait remplacer Golfech avec du photovoltaïque. Donc, nous, on a fait le calcul. D'abord, c'est impossible de remplacer une centrale nucléaire comme Golfech ou tout autre par le photovoltaïque ou l'éolien, pour la simple raison que le vent ne souffle pas tout le temps et le soleil ne brille pas tout le temps. Donc, chaque fois, on est obligé d'avoir quelque chose pour prendre le relais. Donc, pour remplacer Golfech avec des panneaux photovoltaïques, par exemple, avec des sites comme celle proposée pour Montcuq, il faudra couvrir 6 fois la surface totale de la commune de Montcuq avec des panneaux photovoltaïques. Ça veut dire 195 km² de la France. avec presque 33 millions de panneaux photovoltaïques. Mais il faudra aussi avoir une centrale équivalente à Golfech pour prendre le relais quand ces 33 millions de panneaux n'ont pas de soleil. Et c'est un peu la même chose avec l'éolien industriel. Pour remplacer Golfech, il faudra à peu près 5100 éoliens industriels. Mais même chose, quand il n'y a pas de vent ou trop de vent, ben il faudra une centrale équivalente à Golfech pour prendre le relais.
Oui, et puis pour revenir sur l'éolien, vous m'avez donné quelques chiffres qui font un peu froid dans le dos. La taille, par exemple, d'une éolienne.
Oui, ben, ici dans le Lot, pour prendre un exemple, et c'est à peu près vrai pour la plupart du Lot, il y a une certaine différence au nord du Lot qui est un peu plus haut en altitude, mais les éoliennes vont être plus grandes que la tour Montparnasse à Paris. Si vous pouvez imaginer ça dans nos paysages, puisqu'il faudra monter avec des machines de 230 à 250 mètres de hauteur, avec des pales qui tournent dans un espace aérien de plus que 1,5 hectare. Alors, il faut imaginer ça pour produire pas beaucoup d'énergie, puisque la vitesse moyenne des vents annoncée dans le document de consultation de la DREAL dans le Lot est entre 4 et 6 mètres secondes, ce qui représente les machines ne vont même pas achever leur potentiel maximum avec ces vents. Donc on n'est pas une région ventée.
Non, c'est des histoires un petit peu ridicules. Dès qu'on fait un petit peu de calcul et qu'on regarde un petit peu les proportions, on se dit non, ça n'est pas raisonnable.
À qui profite le crime?
Bon, là, il y a beaucoup à dire. C'est un peu difficile ensuite dessus, mais la logique montre un petit peu le chemin.
Alors, tout ça veut dire qu'en gros, on est un peu condamné à conserver pendant encore quelques temps le nucléaire, malgré tout.
Ouais, ça, c'est la catastrophe. On est rentré dans ce système. Le moment de la catastrophe, c'était là. Et maintenant, pour en sortir, c'est très, très difficile, c'est très compliqué. Une centrale atomique est très, très difficile à arrêter, c'est très dangereux, et ça coûte des sommes assez fabuleuses. Donc, bon, voilà le problème. On a un gros monstre chez nous, et on ne sait plus trop quoi en faire, et donc, en profiter, continuer à en profiter, c'est vrai que c'est assez malsain, mais quelle est l'autre solution ? Voilà, on peut imaginer un pays où il n'y ait plus que des panneaux photovoltaïques, que des éoliennes, et que les êtres humains, ben, dans les tout petits endroits qui restent à côté, ils sont parqués en attendant que la production se soit faite, et eux, ben, ils seront exclus de tous les autres endroits.
Et on n'a pas abordé, évidemment, les impacts environnementaux sur les animaux,
absolument,
sur l'élevage,
absolument,
sur les problèmes que ça peut apporter aussi, même aux individus. Il y a des gens qui sont allergiques ou qui vivent,
absolument,
à côté. Enfin, c'est une horreur.
Tout à fait.
Et il y a, au niveau santé, hein, il y a beaucoup de rapports là-dessus, mais il y a quelque chose de très important qui vient de se passer cette année. C'est pour la première fois en France, la justice, c'est-à-dire la cour d'appel de Toulouse, a reconnu ce qu'ils ont appelé le syndrome éolien, et ils ont appliqué une amende de 100 000 euros en dédommagement pour un couple riverain d'un parc éolien à cause des nuisances et des maladies qu'ils ont eues. Et puis il y a aussi des histoires avec des agriculteurs qui ont des gros problèmes avec les cheptels. Oui, donc, niveau santé, c'est certainement il y a des problèmes, mais l'autre chose, je crois, qu'il faut dire, c'est qu'il n'existe pas d'énergie verte. On n'arrête pas de parler de l'énergie verte, ça n'existe pas, parce que seule énergie verte, c'est l'énergie qu'on n'utilise pas. Donc, où il faut commencer, c'est d'utiliser moins d'énergie. Là, déjà, si tout le monde utilisait 10-20% moins d'énergie, ce serait pas mal, sauf qu'il y aura un impact dans les revenus de l'État, puisque les impôts et les taxes vont diminuer par les 20% qu'on vient de diminuer nos demandes énergétiques. Donc là, il y a un problème aussi.
Et personne n'a songé à trouver encore la bonne solution. Comment ça se fait?
C'est difficile de parler aux gens de décroissance. Les gens ont des habitudes. Mais il y a quand même aussi de l'éducation, il y a quand même de l'information, et je pense que n'importe qui est relativement raisonnable quand il sait ce qui se passe. Donc voilà où il faut un petit peu travailler.
Bah, Tim, vous m'avez dit, par ailleurs, que vous habitiez depuis maintenant quelques années dans une maison justement où vous êtes assez indépendant au niveau de l'énergie. Donc, à titre individuel, même si l'État y perd un peu, ça vaut le coup.
Ah, tout à fait. Moi, je pense que c'est peut-être un autre sujet, Sylvie. Mais...
C'est ça. J'avais bien l'intention de vous faire revenir.
Mais oui, mais pour moi, c'est l'avenir... du bâtiment, tous les bâtiments, que ça soit une petite maison ou une grande hangar ou supermarché, etc. Tous ces bâtiments devraient être autonomes en énergie le plus que possible, et ça devrait être dans toutes les règles d'urbanisme. Par exemple, en ce moment à Montcuq, qui sont en train de faire une nouvelle PLUI. Alors moi, j'espère que dans ce PLUI, c'est que tous les bâtiments doivent être autonome en énergie, en autoconsommation. Parce que tous les projets dont on parle ici, c'est des projets montés par des sociétés financières pour des intérêts financiers privés, pour lesquels nous et le peuple vont payer par nos taxes sur notre consommation. Vous n'avez qu'à regarder votre facture électrique pour voir le montant des taxes et impôts. Or, ce qu'on pourrait faire, c'est un peu ce que j'ai fait dans ma maison. Je n'ai besoin de très peu d'énergie. Nous sommes aussi maintenant en autoconsommation, où nous avons des panneaux photovoltaïques pour produire la base de nos besoins. Si on faisait ça partout, la différence serait énorme, et on pourrait, pour moi, l'idée d'avoir des projets locaux. Donc, Montcuq décide de faire lui-même un projet. Ça existe en France, il y a pas mal de projets où les municipalités ont fait des études sur toutes les surfaces disponibles qui sont déjà artificialisées, où ils pourraient mettre des productions d'énergie en photovoltaïque. Alors, pour moi, il faut commencer là. Et d'ailleurs, il y a une étude de l'ADEME qui a été faite en 2019, de mémoire, qui a identifié en France, partout en France, des énormes quantités de surfaces qui devraient être développées d'abord et pas les terres agricoles.
Pas les sols,
voilà,
agricoles.
Exact. Il me semble complètement logique, ça.
Justement, pour la commune de Montcuq, vous en parliez là à l'instant, ça va rapporter, enfin si le projet voit le jour, les projets, pas mal d'argent quand même. Donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas un vase communicant? Est-ce qu'il ne serait pas censé alléger la note quelque part?
Oui, ben c'est le problème de toutes les démarches faites par les promoteurs auprès des municipalités. On a des bonnes nouvelles. Vous pourriez rejoindre le combat contre le réchauffement climatique et la transition énergétique, parce qu'on pourrait mettre des centrales chez vous, monsieur le maire, monsieur, madame, les conseillers. Et en plus, vous allez toucher des sous. Bah, imaginez, moi, c'est un problème différent, difficile pour tous les autorités, parce que c'est de plus en plus difficile avec les budgets. Quelqu'un arrive pour dire « on va vous payer tout cet argent », qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, et simplement, si le réchauffement climatique continue, si les productions agricoles continuent à diminuer, parce que ça diminue un petit peu partout, eh bien à ce moment-là, quand les gens auront peut-être un peu faim, ou n'auront plus assez d'argent pour acheter à l'extérieur, ou si les transports ne peuvent plus se faire d'un continent à l'autre, alors qu'est-ce qu'il faudra dire à la population qui ne se nourrit pas? Il ne faut pas voir à court terme, il faut voir à moyen et surtout long terme. C'est plutôt pour nos enfants et nos petits-enfants que nous travaillons. Je crains fort que ce soit plutôt pour nos enfants, d'ailleurs, que nos petits-enfants, tellement le mouvement s'accélère en ce moment.
Il y a des exemples intéressants, je crois, que, au niveau des terres agricoles, parce qu'on est en train de détruire les forêts en Amazonie. Pour faire quoi? Ben, entre autres, pour faire pousser du soja que nous, on va importer. Au lieu de faire des productions plus grandes de soja en France, eh ben, en quelque sorte, on est en train d'importer la destruction des forêts amazoniennes. Mmh. Alors pour moi, ça n'a aucun sens.
Puis, abattre des arbres, c'est retirer de l'humidité, c'est retirer de la fertilité des sols, c'est retirer un petit peu tout le poumon de la planète. Donc, si tout s'assèche et tout se brûle et tout se carbonise, il restera plus quoi après ? Eh ben, peut-être des panneaux photovoltaïques qui nous permettront d'avoir l'électricité, mais ça ne se mange pas encore. Hein. C'est là le compliqué.
Alors, est-ce que vous avez un message particulier à faire passer ? Et puis, peut-être revenir un peu sur cette concertation. C'est-à-dire, est-ce que les gens peuvent encore intervenir ? Et si oui, comment ?
Je pense que l'objet de notre démarche avec notre communiqué de presse qui est sur le site aussi, c'était d'essayer d'informer les gens et leur demander de participer à cette concertation. Parce qu'il nous semble que c'est très important. Et donc, message numéro un, c'est s'il vous plaît, allez visiter notre site. C'est www.environnement-6juste.org O-R-G, ou environnement-6juste.fr. Et là, vous trouverez les détails dont nous disposons avec des liens vers tous les documents dans cette consultation qui vont vous permettre d'envoyer par courriel votre avis sur le sujet. Et la démocratie veut dire que même si vous êtes pour, il faut le faire. Si vous êtes contre, faites-le, c'est sûr. Donc ça, c'est le premier message. J'aimerais juste, pour mettre les choses un peu en perspective là, vous dire qu'en France, on produit en fait plus d'énergie électrique qu'on consomme. Donc on est des exportateurs d'énergie électrique. Et les exportations nettes de la France sont plus grandes que la production totale de l'énergie éolien et solaire ensemble. Alors, est-ce qu'on va détruire tous nos paysages et campagnes pour ce dieu énergie, pour l'exporter? Voilà, je vous pose la question. La politique du gouvernement, c'est, et puis on a besoin de faire quelque chose pour le réchauffement climatique. Je pense que notre point, c'est qu'il y a autre manière de faire tout ça que de détruire nos paysages et nos campagnes, de détruire notre capacité de produire la nourriture dont on a besoin. Donc, essayons de faire autrement. Si le public ne dit rien, c'est sûr et certain que les politiques vont dire les gens ne sont pas inquiets, donc nous on peut continuer comme on veut. Et on sait très bien que quand il y a des mouvements importants et que les autorités comprennent que les gens ont un point de vue et vont le soutenir avec des actions, c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à écouter. Donc, si vous pouvez participer à cette consultation, c'est très important. Si vous avez près de chez vous des associations comme la nôtre pour la protection de l'environnement, allez les rejoindre parce qu'ils ont certainement besoin de militants, et surtout les jeunes. Les gens de mon âge, nous, on ne va pas subir les pires ravages de ce réchauffement climatique, mais les jeunes vont.
Et vous avez prévu une pétition, par exemple, pour ces projets-là très spécifiques ?
Pour l'instant, il s'agit d'essayer de mettre le plus de gens possible au courant de ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que ce sont des façons de faire qui ne sont peut-être pas accessibles à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas une facilité à aller sur l'ordinateur, tout le monde n'a pas été informé, d'ailleurs la preuve, même nous, on l'a appris vraiment sur le tard, donc tout ça, c'est quand même des mauvaises façons d'informer le public. Et c'est d'ailleurs une erreur.
Le projet de Montcuq a un peu le plomb dans les ailes, dans la mesure où le préfet a refusé une partie du projet. Donc, pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais ayant dépensé pas mal d'argent sur toutes les études, je pense que la société Photosol ne va pas juste claquer la porte et dire au revoir. C'était la partie, ce qu'on appelle la compensation agricole, et qu'ils ont trouvé n'était pas en mesure, à la hauteur de ce qui est nécessaire, et surtout que la zone d'étude sur les impacts sur, par exemple, l'avifaune, etc., n'était pas suffisamment élargie, et donc le préfet a émis un avis défavorable sur le projet à ce point-là. Les autres projets photovoltaïque au sol. Il y en a une à la cour de Visa, qui est dans le 82. C'est la même chose. C'est ce nouveau terme qu'ils ont inventé, qui est un terme commercial agrivoltaïque. C'est le mariage fabuleux entre la production d'énergie et l'agriculture. Eh bien là, c'est la même chose. C'est au tout début. L'association travaille dessus. Nous avons encouragé les gens du 82 de créer leur propre association. Je pense qu'ils sont en train de le faire ou ils l'ont fait pour combattre ce projet. Et nous savons que maintenant, la majorité du conseil municipal de la Cour de Visa est contre le projet. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Il y a d'autres projets. Il y a un projet qui couvre 250 hectares qui va d'ici, d'ailleurs, très près d'ici, où nous sommes aujourd'hui, jusqu'à Saint-Bozeil, dans le 82. Ça aussi, c'est agrivoltaïque. Tous ces projets prennent beaucoup de temps, et je pense que si les gens veulent trouver des solutions qui sont plus respectueuses de notre environnement, mode de vie, etc., ben, ils devraient essayer de rejoindre des associations comme la nôtre, d'encourager leur municipalité de faire quelque chose plutôt que juste dire oui, c'est bien, on va recevoir 60 000 euros par an, on y va. De réfléchir sur ce qu'ils font et développer des projets qui sont acceptés par les populations. D'économie d'énergie, surtout d'économie d'énergie, oui.
Encore un mot ?
Quand on parle d'agrophotovoltaïsme, c'est complètement ridicule si on regarde un petit peu ce que c'est que l'agriculture. Il y a quand même, les plantes ont certains besoins, la photosynthèse. Enfin, dire qu'on va faire de l'agriculture sous des panneaux, c'est ridicule. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il ne faut pas croire que les panneaux, on va les retirer comme ça du jour au lendemain, que ça sera très simple. Hein. Parce qu'il y a des panneaux, il faut aller jusqu'à 18 mètres pour enfoncer les piquets. Ça sera un démontage fantastique et il faudra plusieurs années pour récupérer la fertilité des sols. Et plusieurs années sans production, c'est quand même long. Moi, je pense que plus nous arrivons vers un réchauffement climatique qui maintenant est pour une partie irréversible, c'est de la folie. On se coupe notre nourriture de plus tard. Il faut absolument arrêter ça. C'est aberrant. Aberrant.
Donc, il est temps. Alors, on rappelle la date limite pour cette concertation. C'est le 15, c'est ça, décembre.
C'est exactement ça, le 15.
Voilà. De toute façon, si nos auditeurs qui sont près de Montcuq veulent vous contacter, Tim, je crois que vous êtes le contact de l'association, c'est ça, officiellement ?
Non, pas nécessairement. Nous avons une adresse de courriel sur le site. Donc, écrivez à l'adresse du courriel. Tout le bureau, en principe, va prendre connaissance de ces courriels et ensuite pourra donner suite.
Eh bien, Madame Gaudin et Monsieur Abadi, merci d'être venus. On va se quitter de façon positive avant d'éviter la catastrophe, c'est ça que vous vouliez dire ?
Tout à fait. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Va tomber, les branches salissaient les murs. Et rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé, juste pour mettre des flèches et des cœurs. Mais l'arbre va tomber. Le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber. Ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé. Et l'homme est le plus fort, toujours. Ouh, c'est pas compliqué. Ça va pas lui prendre longtemps. Dégringoler, l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, l'homme veut mesurer sa force. Et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce. Et tellement qui s'y abrite encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois. Ouh, un bout de forêt, avancer trop près des maisons. Et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient. Ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, oh, t'as dû en voir passer des cortèges de paumés, des orages, des météores. Et toutes ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors.